Vous êtes sur RTL.
Votre chanson, elle est top, Bérénice. Mon fils, il l'écoute en boucle.
Mais on les a tous vendus, sinon je vous en aurais offert un avec plaisir.
Non, mais on est très, très fiers d'accueillir Bérénice, nous, les Français. Vous allez la garder en Belgique, d'ailleurs, hein, puisque l'émission avec Bruno Guillon sera retransmise sur Bel RTL. Et nous, on est très heureux de t'avoir. Moi, j'étais très heureux de passer ces deux semaines avec toi. On se retrouve la semaine prochaine. C'est pas comme si on se quittait comme ça. Mais quand même, je voulais te dire.
Il faut dire les choses.
Voilà, que c'était chouette.
Voilà, tout ce qui est de n'est plus dedans. Hein,
on en parlait avec le vomi tout à l'heure. C'est ça. C'était chouette.
Pareillement, comme on dit chez nous.
Allez.
Merci, Eric. Bon, à lundi.
On va se quitter. On vous laisse, pour la France en tout cas, avec le plus grand spécialiste des œuvres d'art en cailloux. Ouais. Il est belge, il s'appelle Jean-Michel Zeka. Il est entouré de Jean-Sébastien Petit-Demange et Loana Belmondo. Hein.
Et pour la Belgique, direction les Belges en vacances sur Bel RTL.
Vous écoutez RTL, il est 11h.
Et c'est l'heure de s'informer tout de suite avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour.
Rebonjour Bérénice et Eric, bonjour à tous. Les corps des 6 humanitaires français assassinés au Niger dimanche dernier, de retour en France. Le Premier ministre Jean Castex présidera à partir de 16h une cérémonie d'hommage national à Orly. Emmanuel Macron, lui, ne sera pas présent. Aucun des assaillants n'a pour le moment été retrouvé. Paris et les Bouches-du-Rhône, désormais considérés comme des zones de circulation active du coronavirus. Un décret a été publié ce matin. Il permet au préfet de prendre des mesures restrictives, fermeture des restaurants, des marchés ou encore limitation des déplacements. Les contrôles dans les aéroports renforcés, les tests virologiques sont désormais obligatoires en France pour les passagers en provenance de la Bosnie, de la Colombie ou du Mexique. 17 pays ont été ajoutés à la liste déjà existante qui en comportait 16 jusque-là. Des mesures prises pour freiner l'épidémie, plus de 2660 nouveaux cas enregistrés hier sur tout le territoire. Conséquence, le Royaume-Uni met la France à l'isolement. Il impose dès demain matin 4 heures, une quatorzaine aux voyageurs en provenance de l'Hexagone. Décision que regrette le gouvernement français. Il promet une mesure de réciprocité. Des militaires, des vivres et des matériaux pour aider à la reconstruction. Le tonnerre est arrivé ce matin à Beyrouth, 10 jours après l'explosion qui a fait 171 morts et plus de 6500 blessés. Le porte-hélicoptère français accueilli par la ministre des Armées, Florence Parly, sur place depuis hier. Allez, on fait le point tout de suite.
De gaz, moins cher.
Journée classée orange dans le sens des retours, c'est rouge même près de la Méditerranée. Prudence notamment au nord d'Orange où il y a un accident, Benjamin Boucriche.
Absolument, juste après la bifurcation entre l'A9 et l'A7 quand vous roulez vers Lyon. Prévoyez donc 7 km de ralentissement et vous pouvez même quitter l'autoroute à la sortie 21 Orange Centre pour esquiver ce bouchon. Au Pays Basque, sur l'A63 en direction de l'Espagne, il y a beaucoup de monde dans la voiture après la sortie 5 Bayonne Sud et puis sur l'A4, en direction de Strasbourg, l'autoroute est partiellement fermée à cause d'un accident à Verdun. Il est donc demandé de quitter l'autoroute à la sortie 30.
Guidage.
29 cyclistes sont morts sur les routes françaises le mois dernier. C'est le plus lourd bilan pour un mois de juillet depuis 10 ans. Alors selon vous, les nouvelles pistes cyclables sont-elles efficaces? C'est la question du jour sur RTL.fr. On attend vos avis au 3210 et sur la page Facebook. Les auditeurs ont la parole. La météo et plus aucune vigilance orange sur le territoire. Ni à la canicule ni aux orages. Le soleil va gagner du terrain aujourd'hui et s'étendre à toutes les régions atlantiques, au sud et au centre du pays. Du nord de la Seine au Grand Est, vers les Alpes et les Pyrénées, les nuages résisteront, mais les averses orageuses seront de plus en plus faibles. Côté température, cet après-midi, il fera 25 à Paris, 26 à Clermont-Ferrand, 27 à Strasbourg et 29 à Toulouse. Les courses en nocturne à Cabourg, Dominique Cordier vous conseille le 7, le 6, le 8, le 10, le 5, le 14, le 11 et le 3. Sa dernière minute, c'est le numéro 5, Eugénie Impérial, la course du Quintet à suivre sur sisplay.fr. RTL, 11h04, on se régale jusqu'à 12h30 sur RTL avec vous, Jean-Michel Zeka.
Merci Sébastien Rouxel, les prochains points sur l'info, tout à l'heure à midi.
À tout à l'heure.
11h-12h30,
RTL vous régale, Jean-Michel Zeka.
Quel bonheur de vous retrouver en cette fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. On va la prolonger ensemble en direct jusqu'à 12h30. Voici RTL vous régale aujourd'hui, direction la Corse. Direction l'île de Beauté. Alors évidemment, on va vous parler de charcutaille. Et évidemment, on va évoquer les classiques de charcutaille.
Charcutaille.
On parle de charcuterie.
C'est, non, c'est corse. Figatelle, coppa, plissoute, ou fromage, vin, gâteau. Enfin bon, bref, il y a des choses à raconter sur cette Corse qu'on aime, qu'on adore. On va vous parler de l'histoire de cette île. Dieu, qu'elle est belle. Nous serons sur les traces de Bonaparte. Et là, il apparaît tel infidèle grognard. Et comme disait l'empereur en lui tirant l'oreille... Je suis content de vous, Jean-Sébastien Petit-Demanche. Ouais. Après avoir séduit le capitaine des Hussards, Joséphine de Belmondo tombera-t-elle enfin dans les bras du fidèle grognard ? Vous le saurez dans ce nouvel épisode d'RTL vous régale. C'est que de l'amour. Et tout à l'heure, ils s'affronteront néanmoins sur le jeu du défi frigo. Je rappelle le score, c'est 2-2. Et là, ça va moins rigoler. La journée est donc décisive, car je rappelle que si Jean-Seb gagne aujourd'hui...
Mais je remets mon titre en jeu.
Il l'annonce
pour cette semaine.
Ah, pour la semaine.
Oui.
Donc si vous gagnez aujourd'hui, vous remettez votre titre en jeu.
Non, si je remets mon titre en... Ah ben non, c'est con, il y a
deux. Non, c'est pas possible.
Oui,
donc,
soit, voilà,
c'est bête, il y a deux.
Soit vous faites comme moi.
Eh bien, c'est bête.
Calcul.
Comme disait l'empereur, je suis content de vous, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Le défi
alors,
frigo pour jouer
chose.
Avec nous. Oui.
Que le meilleur gagne.
Voilà, 3210 par téléphone.
Ça y est, en fair play.
Ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre ingrédient au 64 900. Avec quoi allons-nous jouer? Réponse tout à l'heure, à midi peut-être avec vous. Vous êtes quelque part en France.
Déjà.
Allez, en route pour l'île de beauté dans un instant. Soyez les bienvenus sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
Un livre qui fait du bien. RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka.
Direction l'île de beauté, nous sommes en Corse aujourd'hui pour terminer cette semaine d'RTL vous régale. Jean-Sébastien, la Corse, que j'imagine vous avez parcouru du nord au sud, d'est en ouest pour le guide du Routard.
Pas tant que ça, non, j'y suis allé quelques fois pour le guide du Routard.
On en parlera avec le rédacteur en chef
absolument,
adjoint.
Avec Benoît Lucchini à la fin de cette émission, qui lui est corse et connaît formidablement la Corse, ce petit rocher balancé dans un univers coupé en deux avec en haut le passé et ses souvenirs et en bas la mer. Faut savoir, comme souvent sur des îles, le littoral, jadis, c'était l'ennemi. C'était le symbole de l'envahisseur, c'était le symbole du danger. Donc les villageois, en fait, descendaient au bord de la mer uniquement pour aller pêcher, pour récupérer quelques animaux qui s'étaient égarés. Puis sinon, on remontait dans les perchoirs. Et ça a duré pendant très très longtemps. Entre les Corses et la mer, il continue à y avoir une certaine relation d'amour et de crainte. Parce que au départ, ça n'est pas un peuple de marins. Les Corses, hormis les Cap-Corsins, donc hormis ceux qui habitent dans le doigt de la Corse, mais aujourd'hui, ça a totalement changé. 80% de la population corse se concentre sur le littoral. Activité économique oblige. Les Corses continuent à être les gardiens de la terre de leurs ancêtres, et c'est peut-être ça ce qui est le plus marquant en Corse, c'est ce côté extrêmement attaché à la terre. Ils sont devenus très prudents sur tout cela. Ils sont
comme tous les peuples qui ont subi pas mal d'invasions.
Absolument, oui. Ils sont restés entre insularité et montagne. Les dieux de la Méditerranée auraient pu s'installer là-bas en villégiature. Et la Corse, c'est surtout le berceau d'une communauté souvent malmenée par l'histoire. En attendant, c'est un peu la fille de la Méditerranée, la Corse qui a des influences du bassin méditerranéen, qui est métisse culturellement, la Corse qui ne renie aucun emprunt, où il y a une histoire à la fois dure, tragique, secrète et sauvage, et c'est à la fois des reliefs fantastiques, un climat particulier, des passions qui sont foudroyantes, des maisons, des plages qui sont paradisiaques, des criques qui peuvent être ultra secrètes avec des eaux bleues turquoise comme on n'en fait même pas en Polynésie. Des montagnes à la fois abruptes, accidentées, le plus fabuleux sentier de grande randonnée qui soit, qui est le GR20. C'est une île grisante de rocailles et de volupté, d'austérité, de parfums d'îles lointaines. Ça sent la farine de châtaigne et la copa. Ça sent le cochon sauvage qui se balade, qui n'a rien de sauvage, et l'odeur du maquis. Et c'est peut-être ça qui marque le plus quand on arrive en ferry, c'est cette odeur quand on se lève très très tôt le matin, quand le ferry est encore loin de la Corse. Il y a cette odeur du maquis qui vous flatte les narines, et c'est peut-être ça le plus marquant de la Corse.
Loana, dans notre grande série de l'été, j'ai deux amis, voici Cécile et Philippe.
Parfois je n'ai un seul, hein, parfois je n'ai plusieurs, mais oui, mais écoutez, je suis quelqu'un de convivial, donc j'ai des amis partout en France, et là j'arrive à l'instant à l'aéroport de Bastia, et qui m'attend, c'est mes amis, oui.
Eh ben, merci Cécile et Philippe.
Voilà, ils m'attendent. Et on va où? Eh bien, j'ai une destination bien précise, mais je commence à passer par Saint-Florent. Alors, vous connaissez Saint-Florent? C'est abrité dans le golfe du même nom. C'est pas loin du désert des Agriate. C'est un des plus beaux et charmants villages de l'île, d'une beauté incroyable. Pour y arriver, on traverse quand même le village des Patrimonio. Alors, c'est un village qu'on dirait une crèche. Il est complètement accroché à la montagne. Il est très connu pour ses vignobles. Et en fait, le rosé qu'on consomme, qu'on déguste dans une terrasse, par exemple sur le port de Saint-Florent, vient bien sûr de là. Saint-Florent, c'est petit, on flâne dans les ruelles, on va voir la citadelle, on monte justement dans la citadelle pour regarder cette magnifique vue sur le village. On prend un bateau. Jean-Sébastien, il disait vraiment qu'il y avait des plages, des criques, des eaux turquoises. On prend un petit bateau et on va à Selecha ou sur la plage des Lotus. Là, c'est super. Et puis, on mange parce que voilà, nager, ça creuse. Donc, on va forcément manger à la Rosaiola. C'est vers le désert des Agriates. Alors, c'est un lieu intimiste, familial, convivial, où vous pouvez faire une pause sans être bousculé, surtout à une période où il y a un été, on va dire. C'est un petit bijou qui mérite de faire le tour. Alors la cuisine, elle est vraiment faite à base des produits locaux. Moi, j'ai mangé des pièces de boucher cuites au feu de bois, un gratin de courgettes à la menthe extra, des frites maison, mais j'ose le dire.
En Corse.
J'ose le dire. Mieux que les frites belges.
Je mettrai donc plus qu'un donc, été à vous faire comprendre certaines choses. Mais, mangez pas ça, mangez de la truite corse.
C'est vrai, on peut manger de la truite corse, surtout quand on va à Murato, c'est là que je vais aller. Là, c'est un village à plus de 500 mètres d'altitude. Et là, comme vous dites, il y a beaucoup de rivières où on trouve cette fameuse truite. On se promène un peu, une petite la charcuterie. Ici, c'est vraiment un village des charcuteries. On va chez Pascal Fiori, c'est un vrai éleveur charcutier. Dans la pure tradition, la qualité est extraordinaire. Les porcs sont élevés en pleine liberté, nourris des glands et des châtaignes. Donc, le jambon, c'est quelque chose d'incroyable. Il est très peu salé et c'est ça qu'il garde ce potentiel gustatif. Mais où je vais avec mes amis? Je vais à Campo di Monte. Là, c'est le territoire des Pauline Julliard. Alors, Pauline, quoi dire des Pauline? Pauline, elle a une première vie à Bastia, puis elle se réinstalle dans ce village natal. Elle rachète une ferme en pierre, en ruine. Elle a peur de rien, avec beaucoup de goût, d'amour, de sobriété, qui sont toutes à son image. Elle fait, elle construit ce lieu unique. On est bercé, on a une vue incroyable sur la mer. On est bercé par la nature. On est complètement déconnecté. Alors Pauline, c'est quelqu'un à elle-même de pétillante, protectrice, accueillante. On peut loger quelques jours, hein, parce qu'il y a des chambres chez Pauline, mais Pauline, c'est quoi? C'est surtout une grande cuisinière. Alors il faut se prendre un peu en avance pour réserver une table, parce qu'il y a qu'une trentaine, elle fait que pas plus de 30 couverts.
On mange quoi chez Pauline?
Alors, déjà, il n'y a pas de carte. Il y a un menu que Pauline fait fixe.
Mais genre quand vous y êtes allé, vous avez mangé quoi, par exemple?
Tout compris. Alors, moi, j'ai mangé, comme c'est une femme libre elle décide elle. Bah, on démarre pour un plateau de charcuterie. Après, ce que je préfère le plus, c'est les beignets de fromage frais qu'elle fait avec un petit verre de muscat rosé de la région. C'est super. Les plats de résistance, ils changent tout le temps. Ça va du ragoût de veau de Corse qui a mijoté presque toute la journée dans un vin rouge. Je l'ai eu tout à l'heure. Elle m'a dit bah, il faut que je te laisse parce que je suis en train de préparer ma soupe paysanne qu'elle est servie dans une soupière familiale qui appartenait déjà à sa, parce que son histoire de famille, à sa grand-mère. Vous savez qu'est-ce que j'ai mangé chez Pauline hein?
Faites-nous rêver.
Non mais surtout, j'avoue, des lasagnes maison au jus de viande. Hein,
la fameuse lasagne corse.
Eh ben oui, les lasagnes corse. Non, les lasagnes de Pauline. Et, mais ce que je préfère le plus, c'est les strozzapreti. Vous savez ce que c'est?
Ça
vous inquiétez pas, ils n'ont étouffé aucun curé. Hein. Ils sont tous vivants, au contraire. Ce sont pas des pâtes. C'est comme chez nous, les gnoudis. Ce sont des farces. C'est comme la farce des raviolis. Donc, c'est fait à base des bruchos, des brettes avec des arômes. Et tout ça, c'est d'une légèreté absolue. On termine par des tomes de brebis avec des confitures maison aux figues et voilà. Tomates.
On est en Corse depuis 17 minutes. Vous voyez un peu le truc? On en est déjà là.
Qu'est-ce qu'il disait, Jean Dormesson?
Terminons là-dessus. Jean Dormesson a dit...
Il a dit que chez Pauline, on est mieux qu'au paradis.
On est quoi?
Mieux qu'au paradis.
Ah, on est mieux qu'au paradis.
Mais bien sûr.
Eh bien, nous embrassons...
Et de la région Nouvelle-Aquitaine.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Allez, RTL vous régale, vous emmène en Corse pour notre plus grand plaisir, parce qu'on adore l'île de beauté. Et c'est vrai que nous avons cédé aux évidences depuis le début de cet été. On ne peut pas être exhaustif sur chacune de nos destinations, mais en Corse, on ne peut pas se passer de vous parler de charcuterie.
Bah, c'est une des évidences de la Corse, parce que il y a tellement de fantasmes qui sont véhiculés sur la charcuterie corse qu'il faut absolument parler de cette terre d'élevage porcin qui existe depuis le XVIIIe siècle. Le porc corse, il est réputé pour la qualité de sa chair, d'abord pour sa saveur particulière. C'est le porc nustral, qui est un porc, une race rustique, avec une robe noire. C'est un cochon qui a des oreilles tombantes, qui est élevé en plein air, qui se promène en liberté. C'est le fameux mythe du cochon sauvage. En réalité, ils sont absolument pas sauvages, les cochons. C'est pas parce qu'ils se promènent en liberté que sont des cochons sauvages, hein, parce qu'un cochon sauvage, ça s'appelle un sanglier globalement. Et en réalité, ils ont un propriétaire. Le propriétaire sait parfaitement où ce cochon se trouve. C'est en attendant le cochon idéal pour faire des charcuteries qui sont dans le mythe de ceux qui aiment le cochon. Vous avez la coppa, vous avez le prosciutto, qui est le seul jambon en France bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, jambon sec de Corse. Et puis il y a surtout des artistes et des artisans qui font des charcuteries corse absolument magnifiques.
Et l'homme idéal pour nous en parler, c'est Félix. Félix Thor, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je sais pas si bonjour, on dit Thor ou Thoré.
Thor.
Voilà,
Thor.
Félix Thor. Éleveur, voilà. Sélectionneur de porc corse. On est chez vous à Cutoli Corticato, on est en Corse du Sud. Oui. Ce cochon nustral dont Jean-Sébastien parlait il y a un instant, il faut préciser que nustral en Corse, ça veut dire le nôtre. Nustral.
Voilà.
Ça veut dire notre cochon finalement. Hein.
Notre cochon, voilà.
C'est celui qu'on voit bien, qui est souvent illustré, c'est ce petit cochon noir en fait.
Voilà, c'est le petit cochon noir, trapu, court en pattes et les oreilles cassées.
Qu'est-ce qui
les oreilles tombantes.
On voit bien, oui, exactement. Qu'est-ce qui lui donne ce goût si particulier, finalement, Félix?
Il y a 50% de la race, et après, il y a 50% de nourriture. On a un cahier, nous, personnellement, sur l'exploitation, on a un cahier des charges très strict. Si vous voulez, le cochon est nourri à 80% de farine d'orge et de petit lait.
D'accord.
Et après, il est fini à la châtaigne pendant 45 jours, voire minimum 45 à 50 jours de finition châtaigne.
Il est fini à la châtaigne, vous voyez, ça c'est l'amour du métier. Vos produits en plus sont tous préparés avec ce qu'on appelle la méthode traditionnelle corse.
Oui, ça surtout, oui. Et après, si vous voulez, on laisse affiner la charcuterie, la coppe, le londe, le prisoute, le saucisson, on le laisse affiner. La pancette et la houlette, ça affiner.
Il y a des saisons, hein, Félix Thor, pour les charcuteries corses. On parle souvent du figatel ou du prisoute, etc. On n'est pas en saison du figatel, par exemple.
Ah, pas du tout. Pas du tout.
C'est quand?
C'est de novembre à mars.
Pourquoi est-ce qu'il y a des saisons de charcuterie, en fait? Expliquez-nous en deux mots.
La charcuterie, c'est saisonnier.
D'accord. Oui, d'accord. Mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait
l'hiver.
Pas... C'est ça, on ne fait pas de figatelle pour en fait, le moment.
La figatelle, c'est une saucisse fraîche.
Oui, fraîche, avec c'est la saucisse de foie.
Voilà. Donc il faut la. Voilà.
En cette période, il ne faut pas en manger.
Exactement.
Mais je ne sais pas pourquoi, c'est ça la question.
Bah parce que c'est pas
parce la. C'est la demande.
Ah, c'est
parce
une
beaucoup de demande.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec la méthode de fabrication ou avec les ingrédients dont on a besoin pour la fabriquer. C'est juste que ça ne se mange pas pour le moment, c'est tout, c'est une tradition.
Voilà, c'est une tradition, et puis même le ficatel, ce n'est pas de saison.
D'accord.
Je pense qu'ils veulent faire le ficatel, ils veulent faire la concurrence à la chipolate et la merguez.
Par contre, Félix, en ce moment, chez toi, on peut manger des terrines au myrte, ce que j'adore.
Oui, on peut manger des terrines, on peut manger du saucisson, on peut manger du londe, de la coppe,
ça, c'est fabuleux,
du prisoute, de la houlette, de la pancette.
La 27. Voilà.
Non, on n'a pas fini. Hein. Félix,
on n'avait qu'à venir. Hein.
Bah ça, on arrive.
On ne va pas tarder. Hein.
Franchement, comment il fait en Corse en cette fin de matinée?
30 degrés. Hein.
Oh, bon chaud, hein. Oh là là. Félix, juste une chose pour finir, il faut quand même prévenir, j'aime mettre en garde les touristes qui vont en Corse de faire attention à ce qu'ils achètent, parce qu'il y a parfois des charcuteries qui sont
moins corse que d'autres.
Voilà.
Voilà, surtout, à 80%.
Exactement.
Ah, c'est énorme ce
mais
que...
Oui, c'est ça qu'il faut, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète.
Mais alors comment on peut savoir, comment est-ce qu'on peut être sûr, si c'est possible, Félix, qu'on achète de la vraie charcuterie corse?
Déjà, il faut se renseigner sur de plus
non,
en plus.
Non, il faut connaître en Corse.
Voilà.
Dites la vérité. Qu'il nous donne le bon artisan à aller voir.
Voilà, mais quand même, il faut se renseigner bien avant d'acheter.
Oui.
Ça, vous vendez pas, le touriste qui passe, il peut pas venir acheter chez vous, par exemple.
Si on a de la production, si on a toujours de la production comme cette année à cause du Covid, on a toujours un peu de marchandises.
Ah ouais, ben voilà, peut-être une solution pour avoir une garantie d'origine. Félix Thor, mille merci d'être passé dans RTL. Merci. Vous régale nous faire ce petit coucou. On embrasse la Corse, les Corses.
Merci beaucoup.
Et merci pour ces produits d'exception. Vous continuez à nous régaler au cœur de cet été 2020 un petit peu particulier. Merci Félix, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Qu'est-ce qu'on va rapporter de Corse? On n'a pas pris la Fuego pour aujourd'hui.
Non,
exceptionnellement. On a quelques valises vides parce que je connais les asticots.
On a un ferry.
Donc, dans un instant, nous allons vous expliquer ce qu'on rapporte de Corse. Et vous allez voir, vous pourriez être surpris. A tout de suite. 3 cafés gourmands sur RTL.
11h-12h30. RTL vous régale.
Chemin faisant sur les sentiers de Corse, avec notre petit panier d'osier, nous allons vous rapporter quelques produits essentiels de l'île de beauté. Alors, je dois vous dire un truc. Hier midi, j'ai découvert, grâce à mon camarade Jean-Sébastien, une eau corse. Je ne la connaissais pas. Et c'est pas mal, on peut ramener de l'eau de Corse.
Alors, on peut.
Vous ne connaissez pas cette eau?
Je ne connaissais pas, je vous assure.
Lorette, ça, on la trouve aujourd'hui facilement sur le continent. La Saint-Georges, qui est une eau plate aussi. En revanche, on ne trouve pratiquement pas de Tsilia, qui est une autre eau gazeuse, et qui est une eau qui provient de Balagne, qui est peu minéralisée, qui est très légère, très délicate. Celle-là, elle est bien à ramener parce qu'on ne la trouve pas ici.
On va rapporter des fromages.
Il y a des chèvres, il y a des brebis, il y a des fromages un peu partout sur l'île. Vous avez des fromages à pâte plus ou moins molle, vous avez des fromages dans l'Alta Rocca. Le fromage le plus connu,
c'est le brochu.
Évidemment, c'est le brochu, mais c'est pas du tout la saison. Puis c'est comme la figatelle, c'est de décembre à mai. C'est ce fromage frais fait à partir de petits laits récupérés après la fabrication des fromages de chèvre ou de brebis. C'est avec cela qu'on fait le fameux fiadone. Si j'ose, je dirais, c'est un cousin rustique du cheesecake, mais c'est mille fois meilleur. C'est avec ça qu'on fait les beignets. C'est le broche, c'est fabuleux, quoi. C'est juste comme ça frais avec un petit peu d'eau de myrte.
Moi, je suis assez client d'huile d'olive corse.
Ah, là, vous allez être servi, ouais. Parce que vous avez l'huile d'olive des Galopa, que c'est une des meilleures au monde. C'est une huile qui a un goût intense en bouche. Au début, on a presque la sensation de croquer un artichaut frais. Et puis, on a une sensation de fraîcheur. On a des notes de menthe sauvage qui vont arriver. Une petite amertume qui persiste et reste en bouche. Moi, franchement, cuire des gros spaghettis et on va râper du zeste de cèdre par-dessus, des fines lamelles, des boutardes.
Ah oui.
Et tout ça arrosé de l'huile d'olive.
Ah, bonheur,
je suis aux anges.
Et en dessert avec le café, un petit canistrel. Par exemple.
C'est un bonheur, ça, le canistre. Ça fait partie des petits gâteaux secs qu'on trouve en Corse, qui accompagnent le café à merveille. Vous savez, c'est le truc, c'est des petits gâteaux. Hop.
C'est un reviens-y.
Voilà, on en reprend tout le temps. Vous avez les déclinaisons, les finucettes et les frappes également, qui sont des petits beignets sucrés moelleux. Ça, c'est moins facile à rapporter. Mais des canistrés, vous en avez à plusieurs goûts généralement. C'est vous en avez au chocolat, vous en avez à l'anis, au citron, en Balagne. Il y a un fabricant de canistrelles au citron qui est absolument génial. Et puis vous pouvez aussi rapporter un truc auquel on pense pas vraiment, qui est un vieil apéritif qui s'appelle le Cap Corse. C'est un vieux nom qu'on peut voir dans les bars, encore les bars de grands hôtels. Le Cap Corse, ça fait partie de ces décoctions de plantes aromatiques, d'orange macérée, de quinquina. C'est typiquement corse. C'est plutôt pas mal. Et ça a un goût, ça a un parfum d'antan.
C'est une histoire vraie, c'est ça. C'est un goût de tradition.
Exactement.
Un mot sur le miel corse quand même, qui est fabuleux.
Ah bah, il est incroyablement fabuleux, pas seulement parce qu'il y a une grande variété de miel. Alors, selon les saisons, alors il y a le miel du printemps, alors il est clair, doré, il y a un goût forcément bien floral et doux. Il y a le miel des maquillés, il est plus cimbré, il est délicat, avec une note un peu caramélisée. Il y a celui des châtaigniers, et bien sûr, il est très cimbré. Il est plus fort en goût et il laisse une petite amertume. Mais pour les amateurs, il est super. Puis, on fait des pollens, des gelées royales, des concentrés. C'est un concentré des vitamines et des oligo-éléments. Donc, c'est très, très bon pour la santé.
Et nous ne rentrerons pas de notre périple en Corse sans rapporter de la noisette.
Absolument. En fait, la noisette, pendant une période, elle a remplacé la culture du cédrat, qui en ces moments, elle est revenue heureusement. Parce que tout simplement, parce qu'il y avait une grande période de gel et donc le cédrat, la plante n'arrivait pas à survivre à ça. Depuis 2014, c'est la noisette des Cervione qui reçoit un IGP. Alors ça garantit quoi? Une production traditionnelle, sans traitement, sans engrais chimiques. Son goût est vraiment franc, il est sucré, aromatique et légèrement boisé. La noisette, elle est bonne pour la santé, elle est très énergique. Il faut en garder toujours une petite poignée dans sa poche.
On en fait des pâtes à tartiner fantastiques.
Oui, on va arrêter d'acheter des mauvaises pâtes à tartiner. On achète justement sur place la nocciola. Et depuis peu, j'ai découvert le salinou. Alors c'est un condiment, c'est ma belle-fille qui m'a fait connaître ça. C'est un condiment à base de noisettes grillées et de sel. On le met partout. En fait, même quand on fait un carpaccio, j'ai fait un carpaccio l'autre jour avec de la dorade, j'ai mis par-dessus et c'est un pur bonheur. Il sublime tous les plats, mais on peut le mettre dans des salades, on peut le mettre dans des pâtes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire ?
Évitez de grignoter.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Il est 11h44 sur RTL. Dans RTL vous régale, le choix de Louana. En cette fin de semaine, nous sommes en Corse. Qu'est-ce qu'on prépare, Louana ?
Alors, cette fois-ci, on fait des beignets. Alors, c'est Philippe, en fait, qui me les a fait. Et ils viennent des Nubios. C'est vraiment une recette des Nubios. Et j'ai fait des beignets sucrés, des pommes de terre.
Mais des beignets de pommes de terre.
Mais pas des bruchos.
Et sucrés.
Et sucrés.
2 minutes, explication.
Allez, on va éplucher les pommes de terre. On les fait cuire dans de l'eau salée bouillante. On réduit les pommes de terre en purée. On va juste rajouter de la farine, des œufs légèrement battus, du sucre, du zeste des citrons et un peu d'alcool qui doit être de l'eau de vie de votre choix. On va tout bien mélanger. Il faut avoir une pâte bien élastique. Alors, si vous la voyez un peu trop compacte, ça dépend de la pomme de terre que vous utilisez, il faut rajouter soit un peu d'eau, soit un peu de lait. Vous la laissez reposer dans un linge pendant une heure à température. Après, vous faites des petites boules que vous allez aplatir entre vos mains et vous les faites frire dans une huile de friture. Une fois qu'elles commencent à bien gonfler, à bien dorer, vous les sortez tout simplement, vous les saupoudrez de sucre et vous allez vous régaler. Ça se mange tiède, chaude. Je ne sais pas combien j'en ai mangé pendant ce dîner avec mes amis corses.
C'est le principe du beignet.
Non, mais c'est délicieux. Et puis, ça change. Mmh. C'est avec la pomme de terre.
Pomme de terre, farine, sucre, des œufs, du citron, de l'eau de vie de votre choix et de l'huile de friture.
Tout simplement.
Tout ça est à retrouver sur le site de cuisineaz.fr.
Sur Lidl.fr. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Allez, dans un instant, dans RTL vous régale, on va accueillir en direct de Corse un marchand de vin, un caviste, un professionnel des produits de bouche. Nicolas Stromboli sera avec nous, mais on va vous parler évidemment de vin. Et pour cela, je me tourne vers le sommelier d'RTL vous régale. C'est celui qui a le petit pins sur le revers de la veste.
Bien sûr.
Jean-Sébastien, c'est un territoire de vin aussi.
Alors, le vin corse, on l'a mis dans les surprises, ça n'a rien de surprenant de dire qu'il y a du vin en Corse. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que on va découvrir que le vin corse, il y a des belles appellations et on les connaît pas forcément toutes. Le vin de l'île de Beauté, il a son charme. Chaque appellation, chaque terroir, chaque vignoble a un caractère propre, déjà parce que cette île a énormément de relief, des coteaux, beaucoup de soleil, des orientations, des expositions différentes, une pluviosité abondante, ce qui est plutôt très bien, mais également des vents puissants et forts. Donc, ça joue un rôle régulateur sur la météo, sur la température, mais ça joue également un rôle assainissant sur les raisins, puisque ça évite les pourritures, puis ça sèche après la pluie le fruit. La Corse, elle a réussi à garder aussi certains cépages qui ont été abandonnés ailleurs. On produit essentiellement des vins de table. La moitié de la production, ce sont des vins, ce qu'on appelle des VDP, des vins de pays. Et puis, il y a 9 AOC qui représentent un quart de la production corse. Vous avez Patrimonio, Ajaccio, vous avez les vins du Muscat du Cap Corse, qui sont des vins doux naturels. C'est un monde particulier où chaque vigneron met sa patte parce que le terroir, je le répète, est à chaque fois différent. Et on va s'en rendre compte avec Nicolas.
Nicolas Stromboli, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et bienvenue sur RTL, Nicolas. Je rappelle, vous êtes marchand de vin, caviste, vous avez une épicerie fine, un bar à vin. On est où chez vous exactement, Nicolas?
Alors, là, on est en direct du marché d'Ajaccio, nouveau marché, la halle marchande qui a ouvert il y a 15 jours.
On ne peut pas mieux tomber.
On ne peut pas mieux tomber, voilà. C'est le centre des belles choses gourmandes à Ajaccio. Mmh. Et on accueille nos visiteurs du lundi au dimanche, toute la saison.
Nicolas, on parlait de ce vin corse. Un chiffre, très vite.
Tout a été dit.
Oui.
Il a synthétisé remarquablement ce qu'est la Corse et sa grande différence.
Merci pour l'artiste. Sauf qu'on n'a pas dit que, quand même, il fallait encore expliquer aujourd'hui le vin corse. J'en veux pour preuve qu'en 95, la Corse, c'est 300 étiquettes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 3000. Il y a du boulot énorme qui a été fait. Mais le vin corse, on ne va pas se mentir, il a besoin d'encore un peu de décryptage.
Alors, plus que d'autres régions françaises, puisqu'effectivement on a parlé de ce relief si différent, on a parlé de ces cépages, on aurait pu aussi parler de la nature des sols. Hein, chaque sol est un goût, et plus vous avez de nature de sol différent, donc plus vous avez de goût, et puis des modes de vinification aussi, puisque on a finalement, même si le vignoble a 2600 ans, ça reste quand même le vignoble un des plus vieux vignobles de France. Mm-hmm. On est un vignoble très jeune, donc on a finalement pas de tradition et on réinvente notre tradition. Donc ça veut dire qu'en fait, si on était cuisinier, on aurait à notre disposition tout un tas d'ustensiles, des casseroles, des poêles, des woks, des marmites. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans les caves en Corse. Donc, quand on combine un petit peu tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences et des expériences plutôt assez heureuses. Et c'est vrai que notre rôle de caviste ou de sommelier n'a jamais été aussi important. Moi, qu'il faut. C'est un vrai maquis.
Voilà, c'est ça, j'aime bien ce que vous dites. Pour essayer de comprendre le vin corse, c'est un vrai maquis, Jean-Sébastien.
Non, puis vous avez les vignerons corses n'ont pas fait le choix de la facilité. Parce que là où certains terroirs travaillent soit du monocépage, soit deux, trois ou quatre cépages, vous les avez multipliés parce que vous les avez conservés.
Ils ont déjà fait le choix. Alors, les conservés, on a 900 cépages endémiques en France qui ont été conservés. Donc, on n'est pas les seuls. On ne veut pas revendiquer cette unicité-là. En revanche, on a effectivement un terroir multiple. Et aujourd'hui, on est plus au service du terroir finalement que d'autres choses. Et on ne s'est jamais posé la question du côté marchand, du côté de la compréhension. Alors, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à expliquer. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il est rare aujourd'hui. Enfin, il est rare. Pour moi, il est impossible qu'un amateur de vin ne trouve pas sa bouteille de vin dans le vignoble corse, tellement l'offre est pluriel et finalement facile quand on a des bonnes clés.
Est-ce qu'il y a un vin de Corse, en tout cas, qui tire un peu plus son épingle du jeu que les autres, qui rencontre aujourd'hui un succès à l'exportation, par exemple ?
Alors, on pourrait parler du rosé, bien évidemment.
Ouais, qu'on voit beaucoup dans les...
Parce que c'est tendance et que ça reste, le vin qui est le plus produit dans l'île.
Bien sûr.
Après, personnellement, je pense qu'on fait les plus grands blancs de Méditerranée. Malheureusement, on en produit assez peu, puisque c'est 15% de la production. Ce sont des blancs qu'on peut consommer jeunes, moins jeunes. On peut avoir des blancs secs, des blancs plus riches, des blancs d'apéro dinatoire, de grande gastronomie.
C'est plutôt du Vermentino, le blanc?
Alors la base c'est du Vermentino. Le Vermentino, c'est un cépage qu'on partage avec tout le bassin méditerranéen. C'est un cépage qui nous vient de Grèce, qui s'est parfaitement adapté à la Corse et qui est un cépage qui est capable de retranscrire de manière très 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 précise ce qui se passe dans notre sous-sol. C'est-à-dire que d'une parcelle à l'autre, on peut avoir des vins qui sont radicalement différents à l'aveugle. Vous les positionnerez sur une carte de France très très éloignée.
Moi, Nicolas, je voulais te remercier en dehors du vin, que tu sais très bien que je ne comprends pas grand-chose, par un ouvrage que tu as fait qui s'appelle Du pain, du vin et des oursins, qui c'est pas seulement un recueil des recettes, c'est un livre des portraits. C'est grâce à des hommes ou des femmes comme toi que vraiment le patrimoine gastronomique français continue de vivre. Et ce que tu fais toi, en tout cas pour la Corse, voilà, je voulais te remercier parce que tu n'es pas que du vin, tu représentes pour moi la Corse.
Mais tu sais, c'est gentil ce que tu dis. Tu sais, c'est en fait, tu parles de pas comprendre. En fait, finalement, plus on avance dans la connaissance du vin, je dis plus tous, nous tous ensemble, hein, nous les auditeurs, plus on avance dans la connaissance du vin, moins on comprend parce que le vin c'est complexe. Et tant mieux si on comprend pas le vin.
Écoute, tu sais quoi, je vais venir en septembre et tu m'apprendras tout.
Non, je vais pas t'apprendre tout. Je vais te donner 2-3 clés et puis voilà. Et puis le vin, c'est une longue route qui est faite de rencontres et qui est faite de dégustations, de partage et d'erreurs.
Merci
Nicolas Stromboni. On dit souvent que la Corse est une montagne dans la mer. On peut y ajouter une bouteille dans la mer, une bouteille de vin corse éventuellement. Ça nous fera plaisir.
Mais pas une bouteille perdue.
Non,
merci
certainement
beaucoup.
Pas. Merci à vous.
Merci Nicolas.
À bientôt. Dans un instant, le défi frigo d'RTL vous régale.
RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Il existe un frigo à Montreuil. Sa propriétaire s'appelle Paula. Bonjour Paula.
Bonjour.
On a 10 secondes Paula pour dire ce que vous avez dans votre frigo qui fera l'objet du défi de ce vendredi.
Bah, c'est des bananes.
La Guinness hier, des bananes aujourd'hui. Deux recettes originales dans un instant. Vous écoutez RTL, il est midi. Le Flash vous est présenté tout de suite par Sébastien Rouxel.
L'avion s'est posé à l'aéroport d'Orly. Les corps des 6 humanitaires assassinés dimanche dernier au Niger, rapatriés ce matin. Le Premier ministre Jean Castex présidera à 16h une cérémonie d'hommage. Emmanuel Macron, lui, ne sera pas présent. Aucun des assaillants n'a pour le moment été retrouvé. L'épidémie de Covid et une vigilance accrue à Paris et dans les Bouches-du-Rhône. Les deux territoires désormais considérés comme des zones de circulation active du virus. Les préfets pourront par exemple fermer certains établissements ou encore limiter les déplacements. Il faut dire que la situation sanitaire continue de se dégrader. Plus de 2660 nouveaux cas ont été enregistrés hier. Conséquence, le Royaume-Uni impose à nouveau une quatorzaine aux voyageurs en provenance de l'Hexagone et cela à partir de demain matin 4h. La France dit regretter cette décision et promet une mesure de réciprocité. Le tonnerre est enfin arrivé à Beyrouth. Le porte-hélicoptère accueille accueillis par la ministre des Armées, Florence Parly, sur place depuis hier. À son bord, des militaires, des vivres et des matériaux pour aider à la reconstruction de la capitale libanaise, 10 jours après l'explosion qui a fait 171 morts et plus de 6500 blessés. L'Union européenne réclame des sanctions contre la Biélorussie. Elle dénonce une violation des droits humains après la sévère répression des manifestants contre la réélection du président Loukachenko. Minsk se dit prêt à un dialogue constructif avec l'étranger. La principale opposante appelle à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Toute cette actualité, vous en parlerez à 13h dans Les Auditeurs ont la parole.
Oui, les auditeurs ont la parole, bien sûr. Comme tous les jours, vous nous appelez au 3210 ou vous nous postez votre avis, votre opinion sur la page Facebook Les Auditeurs ont la parole. Les cas de Covid se multiplient à nouveau et ce sont les jeunes qui sont cette fois de plus en plus infectés. Les 20-40 ans sont-ils imprudents? Vous nous appelez au 3210. La quatorzaine rétablie au Royaume-Uni, avis à ceux qui font des allers-retours avec l'Angleterre. Vos projets sont-ils contrariés cet été? Professionnels du tourisme, les Britanniques repartent aujourd'hui en urgence chez eux. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Vous nous appelez. Et puis les entreprises examinent aujourd'hui avec le ministère du Travail un nouveau protocole anti-Covid. Comment s'est organisé sur votre lieu de travail? Ça nous intéresse. Enfin, les cyclistes, vous le savez, les cyclistes de plus en plus victimes d'accidents de la route. 29 d'entre eux ont été tués en juillet dernier. Sont-ils imprudents après le déconfinement? Les nouvelles pistes cyclables sont-elles dangereuses? Vous nous appelez. On se retrouve donc après 13h, mais avant, pour RTL Midi, la grande tranche d'information, c'est bientôt, dans quelques minutes.
À midi 30. Demi-heure. Merci beaucoup, Bénédicte. À tout à l'heure. La météo et plus aucune vigilance orange sur le territoire, ni à la canicule, ni aux orages. Le soleil va gagner du terrain aujourd'hui et s'étendre à toutes les régions atlantiques, au sud et au centre du pays. Du nord de la Seine au Grand Est et vers les Alpes et les Pyrénées, les nuages résisteront en revanche, mais les averses orageuses seront de plus en plus faibles. Les températures cet après-midi, 21 à Cherbourg, 25 à Lille, 27 à Strasbourg, 29 à Lyon et 33 à Marseille. Les courses en nocturne à Cabourg, les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 6, le 8, le 10, le 5, le 14, le 11 et le 3. Sa dernière minute, c'est le numéro 5, Eugénie Impérial, la course du Quintet à suivre sur sisplay.fr. RTL midi et 3 minutes, la suite de RTL vous régale avec vous Jean-Michel Zeka.
Merci Sébastien, prochain point sur l'info tout à l'heure à midi et demi.
11h-12h30,
RTL vous régale, Jean-Michel Zeka.
Mesdames et messieurs, vous qui écoutez RTL un peu partout en France, vous êtes au cœur d'un défi frigo qui pourrait écrire l'histoire aujourd'hui. Il pourrait s'avérer en effet historique, car en cas de victoire de Jean-Sébastien Petit-Demange dans cet ultime défi de la semaine, exactement, vous pouvez rentrer à Rome avec votre brochure.
J'ai déjà mon passeport.
Voilà. Car il aurait gagné l'été.
Juste en week-end.
On en est là au niveau des scores et ça va se jouer sur des bananes. Paula est à Montreuil. Paula, vous savez ce qu'on se disait pendant les infos? C'est qu'on dit, bon là, on a des bananes dans le frigo. A priori, ça ne se met pas dans le frigo.
Non.
Vous savez?
Non, pas tellement, mais comme on a eu la canicule...
Eh ben oui, alors c'est un réflexe qu'on peut avoir, mais très sincèrement, il faut éviter de mettre les bananes dans le frigo, ça les fait mûrir trop vite.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Et puis c'est pour bon. Paula, de la banane, qu'est-ce que vous en faites généralement? Des tartes, des smoothies, vous faites quoi avec les bananes à part les manger comme ça?
Ben moi je fais en salade de fruits moi.
Oui, bien sûr.
C'est bon,
mais là ce qu'on attend de mes amis, ce sont deux véritables recettes de cuisine.
Tout à fait.
On commence avec qui Paula?
Ah ben je vais commencer avec Loana.
Allez Loana.
Allez allez on y va. Alors Paula, on va faire un moelleux au chocolat aux bananes. Alors ça c'est une recette hyper simple. Vous allez prendre une casserole, vous allez mettre du lait, de la crème florette. Hors du feu, vous allez incorporer du chocolat noir que vous aurez un peu haché pour bien qu'il fonde mieux. Vous allez bien le faire fondre, vous le mélangez, vous allez voir, ça va donner un côté lisse. Hors du feu, vous allez incorporer des jaunes d'œufs très délicatement. Et puis, avant, vous aurez battu les blancs des œufs à neige. Vous allez tout doucement les incorporer. Puis, vous prenez vos bananes. Alors, elles sortent du frigo. Vous les sortez un peu avant du frigo parce qu'il faut les écraser, donc elles vont être un peu trop dures. Donc il vaut mieux que la banane
ce que disait Jean-Michel est juste, qu'elle soit, il faut pas avoir peur que la banane noircisse, qu'elle soit trop mûre. Bien au contraire, elle est presque meilleure en goût. Donc vous allez les écraser. Et vous allez les mélanger à cette pâte, donc, qu'on a fait, avec du lait, de la crème fleurette, des œufs. Vous allez tout mélanger et vous allez poser tout ça dans un moule. Par-dessus, vous disposez aussi des lamelles de banane et vous allez enfourner pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Moi, je déteste le gaspillage, donc je vous donne une petite recette très vite à faire avec la peau de la banane. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes anti-gaspillage ou vous...
Non, non, au contraire.
Voilà. Alors, on jette.
J'imagine un auditeur qui va vous répondre. Non, non, moi j'adore.
Moi j'adore.
Moi je suis pro-gaspillage.
On va faire en fait un pain.
J'adore.
Un pain à base de peau de banane avec des fruits secs. C'est extrêmement facile et c'est hyper bon. Vous allez prendre vos peaux de banane. Donc avec les bananes, vous êtes en train de faire votre moelleux au chocolat. Avec la peau de la banane, vous allez la mixer avec un peu de jus de citron. Vous allez mélanger, vous aurez une purée. Vous allez y mélanger de la farine, un petit peu d'eau, du levain déshydraté, c'est-à-dire de la levure boulangère, un peu de poudre de noisettes ou d'amandes, si vous voulez, et des fruits secs mélangés. Ce que vous avez, des amandes, des pistaches, des noisettes, des cranberries aussi, il y a des mélanges, des sachets déjà prêts. Vous mélangez le tout. Tout ensemble, vous le laissez reposer à température pendant 2 heures, vous le disposez dans un moule que vous aurez chemisé avec du papier sulfurisé et vous enfournez le tout à 220 degrés pendant 40 minutes. Vous aurez un pain fait avec de la peau de banane qui est très très bon, vous pouvez le garder pendant une semaine, vous le tranchez le matin, vous faites des tartines avec du beurre salé, des confitures si vous voulez, vous pouvez le manger sur un plateau de fromage et vous pouvez surtout le congeler. Voilà, ça c'est mes deux petites recettes avec les bananes, hyper simples.
C'est original votre truc de beurre de banane là. Ouais.
Et que tout le monde peut réaliser.
C'est pas mal du tout, c'est
Mais
original.
Loana,
oui.
Excusez-moi,
dites-moi.
Je ne suis pas obligée de mettre les fruits secs.
Non, 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 moi je les rajoute parce que je trouve que ça apporte quelque chose en plus.
Ah. Je vais vous dire.
Vous n'êtes pas obligé du tout, vous pouvez le laisser tel quel. Hein.
Voilà,
vous avez le goût de la banane.
Je vais vous dire, vous n'êtes même pas obligé de manger le moelleux. Hein. Paula, voici la recette de Jean-Seb. Attention, verdict dans un instant.
Vous savez que la peau de la banane, vous pouvez aussi la réutiliser. Prenez les peaux de banane, vous les mettez à macérer pendant une semaine dans du vinaigre blanc. Vous aurez du coup un vinaigre de banane qui va être formidable sur des salades de petits pois, par exemple, sur des salades de fèves fraîches, juste blanchies. Ça, c'est un truc absolument extra.
Plus le nombre incalculable de blagues qu'on peut faire avec des peaux de banane, on ne se rend pas compte.
Ah ben, ce genre aussi, on y met.
Jean-Sébastien, voici la recette.
On n'imagine pas, mais c'est plus dangereux. C'est une recette qui me ramène au Québec, parce que c'est un truc absolument génial que j'ai goûté là-bas. C'est un pudding qui est absolument extraordinaire et puis surtout qui est d'une simplicité biblique à faire. Vous faites chauffer dans une casserole un peu de crème avec une petite gousse de vanille, un tout petit peu de cannelle et du 5 épices. Vous faites chauffer mais juste très très doucement pour que ça monte en température. Pendant ce temps, vous prenez vos bananes, vous les coupez en dés et puis si vous avez un peu de pain rassis, vous faites pareil, vous évitez de le gaspiller. Vous coupez votre pain rassis en dés, vous mélangez avec vos dés de banane et une fois que votre crème est chaude, vous incorporez les bananes avec le pain dans la crème. Vous laissez tranquillement comme ça s'imbiber hors du feu, ça c'est fait. Ensuite, vous prenez des œufs, vous séparez les jaunes des blancs. Les jaunes, vous allez les mélanger avec un peu de rhum, alors on va dire 2 cuillerées à soupe de rhum brun, et puis un peu de sirop d'érable. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Vous allez fouetter les jaunes d'œufs qui deviennent mousseux, vous les incorporez à la crème qui est encore tiède. Vous mélangez bien le tout, et avec les blancs d'œufs, bah là vous faites comme d'habitude, vous les montez en neige et vous incorporez le tout très délicatement. Vous aurez beurré quelques ramequins avant, vous allez mettre votre appareil dans les ramequins et vous mettez au four à 200 degrés et vous laissez cuire une vingtaine de minutes. Vous allez voir que ça va souffler et vous allez épater tout le monde parce que ça va faire un soufflé banane avec un goût sirop d'érable et puis quelques petites épices comme ça qui viennent de loin. C'est bluffant, c'est super bon. Et moi, ça m'emmène tout de suite en voyage.
Et ne surtout pas ouvrir le four pendant la cuisson.
Jamais.
C'est mieux.
On le précise.
Mais comme ce n'est pas un vrai appareil à souffler...
Ouais. C'est...
Voilà, voici ce que mes deux complices ont fait des quelques bananes que vous avez dans le frigo.
Vous savez que c'est vous qui allez devoir décider, c'est vous qui allez devoir choisir. Choisir, c'est renoncer. On a deux recettes originales, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, par contre, cette année, c'est vachement facile, parce que l'année dernière, c'était un peu compliqué.
Allez, mais on a fait un effort sur l'accessibilité des recettes.
Ah, c'est sympa.
Voilà. On s'est dit que tout le monde n'a pas le niveau de cuisine de Louana et de Jean-Sébastien.
Vous m'étonnez. Oui. Alors,
Paula, mais, vous en pensez
mais,
quoi?
Mais vous savez, Jean-Michel, ce serait bon à goûter leur cuisine.
Ah ben bah non, mais moi j'ai le privilège de...
On a un projet d'ouvrir un restaurant.
J'ai le privilège
ensemble.
De la goûter régulièrement. Et vous savez que Jean-Sébastien est le roi de l'omelette, que Louana cuisine italien régulièrement pour nous.
Ah oui.
Et que nous passons des étés qui diététiquement sont assez compliqués. Voilà, c'est assez compliqué. On est quand même en finale du championnat du monde de cholestérol.
Et le diabète.
Voilà. Et je pense qu'on va gagner. Je ne sais pas si le PSG gagnera la Ligue des Champions, mais nous, sur le cholestérol, on est en place. Allez, un choix, Paula.
Allez, cette année, je vais pour Louana.
Allez, c'est gagné,
ah,
Louana.
Merci. Oh là 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 là. Mais merci, Paula. Mais j'espère que vous allez refaire mes recettes. Et le pain avec les pots de banane, même sans fruits secs, vous allez voir, c'est un vrai délice.
Il avait la possibilité de prendre le large, de s'adjuger la victoire finale cet été. Il n'en sera rien, ce qui veut dire que nous sommes à égalité. Semaine décisive la semaine prochaine.
Mamma mia.
C'est un défi frigo.
J'ai rangé mon passeport alors.
Qui va démarrer lundi. Il y en aura 5. Autant dire, sortez les sacs de sable. Tous aux abris, parce que la semaine prochaine, ça va saigner. Paula, on vous embrasse, on va vous offrir une montre RTL, on va vous offrir aussi
merci,
un
Paula.
Guide du routard de votre choix, et vous avez bien fait de nous appeler en ce vendredi 14 août, Paula, car je vous offre également un coffret cadeau Brittany Ferries, intitulé Irrésistible Voyage, ça vaut 1 000 €. C'est un coffret cadeau qui va vous permettre de découvrir Londres, Dublin, pourquoi pas vous offrir une croisière pour l'Espagne. Vous allez composer votre voyage pour la destination de votre choix. Et puis évidemment, comme on est dans des conditions un petit peu particulières en ce moment pour certaines de ces destinations, sachez que la durée de validité de ce cadeau, elle est illimitée. Vous partez quand vous voulez, quand ce sera possible. Plus de renseignements sur brittanyferries.fr. Voilà, c'est un joli cadeau qu'on a le plaisir de vous offrir.
Jean-Michel, est-ce que vous pouvez donner 2 minutes simplement pour que je puisse embrasser mon mari qui travaille? Et je voudrais embrasser tous mes amis et tous mes collègues qui me reconnaîtront.
Et qui se seront reconnus et qui vous auront reconnu. On vous embrasse aussi. Merci et très bon week-end pour la prochain défi frigo dès lundi. 3210 par téléphone pour vous inscrire ou 64 900 par SMS avec le mot Régal.
Bougez plus.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
En Corse, aujourd'hui, pour quelques minutes encore dans RTL vous régale, après la victoire sur RTL.
11h-12h30,
RTL vous régale.
On vous emmène en Corse pour quelques minutes, mais vraiment en direct depuis la Corse. Il est le rédacteur en chef adjoint du Guide du Routard, Benoît Lucchini est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et bienvenue dans RTL, vous régale. Merci de nous accorder ces quelques minutes parce que vous êtes un Corse, en plus.
Exactement.
Vous êtes où ce matin, Benoît?
Alors, ce matin, je suis sur un plateau assez extraordinaire qui s'appelle le plateau du Couchonne. On n'est pas du tout en bord de mer, on est dans le centre-sud de la Corse, dans les régions à cheval entre le Taravo et l'Altaroc. L'Altaroc, ce sont ces hautes roches. Et il y a là un plateau à 1400 mètres d'altitude, 1400-1500, donc un plateau randonnée très facile, et c'est une merveille. C'est à la fois l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, mais je pèse mes mots, hein, Nouvelle-Zélande qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est absolument formidable. Il y a ces prairies épaisses, ces meadows qu'on appelle qu'on nomme ainsi dans le Wyoming, vous savez, ces pelouses très épaisses et spongieuses, on marche dessus, on a de l'eau jusqu'aux genoux quasiment, et qui forment des rues absolument incroyables et sur lesquelles pèsent en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, là, tout de suite devant moi, des chevaux sauvages, des vaches évidemment, des troupeaux de brebis et aussi des cochons d'Austral dont on fait l'excellent prisout, le jambon corse. Et toute cette faune se marie, mais dans une harmonie absolument formidable, sur ce plateau du Couchon, qui est sillonné de sentiers de randonnée absolument formidables. Vous avez le sentier de la pierre, vous avez le sentier de l'eau, et plein d'autres qui sinuent comme ça sur ce plateau. C'est une merveille totale, et malgré la chaleur du bord de mer, vous avez cette fraîcheur qui vous envahit parce que vous êtes à 1400 mètres d'altitude.
Benoît.
Et pour vous rafraîchir, vous vous penchez et vous éclaboussez. Vous savez, il y avait un petit rue comme ça, et même de l'eau potable. Hop là, vous éclaboussez et vous repartez.
Benoît, il y a une question qu'on se pose un peu depuis le début de cette émission. C'est quoi être corse? Comment ça se vit? Il y a une recette,
ça
en fait.
Alors, j'ai envie de dire, ça se vit avec les tripes et pas avec le cerveau. Voilà, ça passe directement par les tripes et par le cœur également. Alors, il n'y a pas que les Corses qui sont pleins de cette espèce de corsitude. J'ai rencontré, il y a une heure, à l'embranchement d'un sentier, il y avait, je dis, la sentier de la pierre, est-ce qu'il est bien? Oui, allez-y là-bas. Et j'ai parlé avec ces gens qui venaient de Mayenne. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, il dit, vous savez, monsieur, moi, ça fait 50 ans que je viens. Je suis venu quand j'étais jeune, puis après avec mes enfants. Et puis, aujourd'hui avec mes petits-enfants, et je dis, mais pourquoi vous venez ici depuis tant de temps? Je dis, la Corse, je la ressens dans mon âme, je la ressens dans mon cœur, je peux pas vous dire. Et la dame, à un moment donné, manquait de mots, et je voyais ses yeux qui rougissaient, simplement. Et voilà, elle était parfois, elle était empreinte de cette corsitude elle-même, qui n'était pourtant pas corse. Voilà, il faut la vivre, et c'est sur ce plateau du Couchon que j'ai eu ce dialogue, il y a une heure à peine, vous voyez, avec ce couple-là de personnes, 70 ans environ, et qui vivaient leur Corse à eux, plein d'une corsitude, plein de l'âme corse, alors qu'ils n'étaient pas corse. Vous voyez, il n'y a pas que les Corses qui peuvent avoir cette corsitude en eux.
Benoît Lucchini, on le dit suffisamment, c'est vrai qu'on vit un été un petit peu particulier, un été différent des autres. Comment se porte le tourisme en Corse, vous qui y êtes en ce moment? Il y a du monde?
Alors, il a mal démarré. Pour vous dire la vérité, il a mal démarré. Il y a eu, au moment du déconfinement, les gens ne sont pas venus, un peu comme s'ils avaient ouvert leur volet. On peut y aller, vous êtes sûr? Bon, on y va à pas compter. Eh, les autres venaient, et puis les autres, ils étaient à l'intérieur. Ils disaient, attends, tu es sûr? Vas-y. Et ça a mis un certain temps. Il y a eu ce moment de flottement pendant quelques semaines, et maintenant, c'est parti. C'est bien parti. Il y a la distanciation physique qui s'est mise en place. Les gens respectent, j'étais à Bonifacio il y a quelques jours, respectent le port du masque sur la marine. Donc il y a une civilité, une manière de vivre ensemble qui est en train véritablement de se mettre en place et qui permet à tout le monde de passer de bonnes vacances. Et puis il y a ces coins où on n'a pas besoin de porter le masque. Hein. Sur le Couchon, je ne porte pas le masque, je vais vous dire, parce que les cochons, les chevaux sauvages, ils ne le portent pas et on peut venir caresser les chevaux sans masque. Il faut être prudent. Le tourisme est là aujourd'hui. J'espère que la saison, l'arrière-saison, va être meilleure que le début de saison. Mais là, c'est bien parti. On espère que le respect de toutes les consignes vont permettre de passer un été fluide et serein.
Merci mille fois Benoît Lucchini. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du guide du Routard, et le guide du Routard consacré à la Corse évidemment est disponible.
Merci Benoît.
À bientôt Benoît, et bel été en Corse.
Ciao ciao.
À bientôt, merci beaucoup.
Nous on va filer pour une destination plus lointaine dans un instant, Jean-Sébastien.
J'avais envie de vous emmener à Porto Rico.
De Porto Vecchio à Porto Rico.
Voilà.
On y va dans un instant, à tout de suite.
Pour votre santé, bougez plus.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Et pour terminer, RTL vous régale. Aujourd'hui, on s'envole loin de la Corse.
Oui.
Destination.
Porto Rico.
Porto Rico.
En fait, vous savez que chaque île a sa personnalité, son identité, son âme. Et c'est vrai que les comparaisons entre îles sont extrêmement difficiles, improbables, voire impossibles. Il y a des îles connues de tous, et puis il y a des îles dont on connaît tous le nom. Porto Rico est celle-là. Porto Rico qui a été d'ailleurs touchée par l'ouragan Isaias il y a juste 2 semaines.
Alors, pour situer Porto Rico, si vous visualisez la pointe sud de la Floride avec Miami, encore un peu plus au sud, vous avez Cuba. Et à l'est de Cuba, vous avez la République dominicaine. Et puis, si vous allez encore un peu à l'est, vous avez cette toute petite île de Porto Rico qui fait à peine 9000 km². Alors, c'est vrai que le destin de cette île, il est très particulier. Les colons espagnols sont arrivés en 1508. Ils découvrent là-bas les Taïnos qui vivaient sur Porto, l'île de Porto Rico. Et à partir de 1897, à l'issue de la guerre hispano-américaine, les États-Unis occupent l'île. Et depuis 1917, les Portoricains ont la nationalité américaine. C'est un État libre associé aux États-Unis. Donc on paye en dollars, c'est les mêmes formalités qu'aux États-Unis, et c'est le même président. Une histoire qui pourrait faire pratiquement un sujet dans le 4 heures américain de mon ami Antoine Baglin. Alors c'est vrai que par rapport à ce que devait être Boricén, qui est le nom, la terre des fiers seigneurs, c'est le nom d'origine de Porto Rico. Qu'en reste-t-il 5 siècles après la conquista? Il reste des plages nombreuses, au sable clair et fin, souvent semées de cocotiers un peu penchés par le vent. Et il y a les eaux tièdes pour se baigner. Il y a des pans extraordinaires à Porto Rico, de forêts tropicales préservées, comme la forêt del Yunque, arrosée par 6 mètres de pluie annuelle. Les Taïnos, d'ailleurs, pensaient que le dieu du bonheur vivait à El Yunque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y découvre là-bas le plus grand radiotélescope du monde. Si, si, celui que vous avez vu dans un James Bond, il est exploité par l'université Cornell. Et selon la légende et les rumeurs, voire les complots, les Américains observeraient la vie extraterrestre de là-bas. En attendant, il faut visiter San Juan, la capitale qui est quand même la plus ancienne ville d'Amérique avec Cusco. La vieille ville avec ses forts, ses remparts, ses maisons coloniales contraste avec un front de mer qui est intégralement 20e siècle. Mais il y a mieux. Il y a Ponce, une ville intégralement du 17e. Trésor national dans laquelle on trouve là encore des maisons coloniales, des fontaines somptueuses entourant une cathédrale sublime. Je vous dis, Porto Rico, c'est une île unique qui n'a aucun équivalent. C'est un peu comme la Corse, quoi.
Porto Rico, je n'y ai jamais mis les pieds, mais ça me donne à peu près très c'est envie d'y aller, très, en tout cas. Ouais,
c'est ouais. Une des îles c'est les bon. Plus étonnantes qui soient, parce qu'on a des images, mais on ne la connaît pas.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à se promener tous ensemble dès la semaine prochaine pour la dernière semaine d'RTL Vous Régale cet été. Avant la rentrée des programmes d'RTL.
C'est pas possible.
Lundi, on vous emmènera dans l'Orléanais, ça va être sympa. Mardi, on ne vous avait pas encore pris par la main pour vous emmener dans les Antilles. Ouais. Mercredi, Longjou, enfin j'en passe. Vendredi, on terminera par les Landes. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous chaque jour entre 11h et midi et demi dans RTL Vous Régale au cœur de cet été 2020. On va vous souhaiter un très bon week-end. Vous dira lundi évidemment avec
bon
une nouvelle semaine décisive pour les fameux défis frigo. Je rappelle que vous pouvez continuer à vous inscrire 3210 par téléphone ou 64 900 par SMS. Le mot régal est l'ingrédient de votre frigo.
Et moi, je vous retrouve dans le 6-9 demain
et
dimanche.
On vous suivra ce
avec
week-end
Agnès Bonfillon.
Avec plaisir. Vous écoutez RTL.